Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la série de 10 victoires consécutives des Rockets de Houston. On va également parler des Wolves et des récentes performances d'Anthony Edwards. On va également aborder le sujet des Knicks de New York qui, malgré l'absence de joueurs majeurs, continuent de s'accrocher en haut du classement de la conférence Est. Et pour m'accompagner, c'est avec joie que j'accueille immédiatement Charlie. Salut Charlie.
Salut Josh, salut à tous.
Comment vas-tu ?
Non, écoute, ça va très bien et toi ?
Ça va très bien, le week-end de Pâques, j'ai un bon week-end devant moi là. Je retourne dans ma Bretagne natale.
De ressourcer avant les playoffs.
Exactement, enfin non, c'est pas tout de suite les playoffs, mais bientôt.
Ah, ça s'approche.
On ne peut plus d'actualité. Voilà, j'en profite pour rappeler d'ailleurs que vous n'aurez pas le, enfin voilà, que je serai en vacances pour la reprise des playoffs. On fera le podcast du 12 avril sur le play-in. Ensuite, Bibi s'en va en vacances et on fera sûrement un podcast. Au moment où les playoffs seront lancés, probablement le dimanche, le numéro va sûrement sortir le dimanche 21 avril. Donc il y aura déjà eu les premiers matchs. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire, Charlie. Ça nous permettra de déjà prendre la température des premières séries lancées et d'annoncer ce qui va advenir.
Exactement. Ouais, ça sera, on aura un échantillon, déjà un petit échantillon pour se faire notre avis.
Ouais, je t'avouerai que j'ai très hâte de faire les previews, j'ai hâte de voir les affiches des playoffs. Probablement que tous les ans je suis comme ça, mais là, la conférence Ouest, j'ai vraiment, vraiment très, très hâte de voir quelles seront les oppositions.
Eh ben, moi aussi, mais j'avoue qu'avant ça, j'ai déjà très, très hâte de la fin de saison régulière qui, à mon avis, va nous réserver pas mal de suspense et du play-in, quoi. Le play-in, je pense que là, cette année, ça peut être incroyable.
Ouais, complètement, ouais. On va en parler d'ailleurs du play-in, puisqu'on va parler de Houston. Mais avant toute chose, j'aimerais parler de 2-3 points d'actualité, à commencer par l'expulsion de Draymond Green contre Orlando récemment dans un match capital pour Golden State. Quelques minutes de la rencontre, Draymond Green se plaint auprès du corps arbitral, insiste par la suite et se fait virer. Ils étaient dans le premier quart-temps, je crois que... Ils avaient joué 4 minutes au total, je crois, un truc comme ça.
3 minutes et 30 secondes.
Voilà. Alors, on a parlé beaucoup de Draymond Green cette saison, pas pour des bons sujets. Je ne sais pas comment tu as perçu ce truc-là. Personnellement, j'ai l'impression, quand j'ai vu le visage de Stephen Curry à l'expulsion de Draymond Green, ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si la coupe est pleine. Je ne sais pas s'il a atteint le point de non-retour concernant Draymond Green. Je ne sais pas où se situe la franchise. On verra ça à l'intersaison. Mais le comportement de Draymond Green, qui nous avait fait un peu une Sarkozy, tu vois, j'ai changé. Je ne suis plus le même homme. J'ai appris ma leçon. Voilà, bullshit total. Bah, c'est pas surprenant. J'y ai jamais cru une seconde à ses propos de dire ouais, c'est bon, j'ai appris ma leçon et tout. Mais à ce moment de la saison, au moment où son équipe a le plus besoin de lui, avoir cette réaction purement égoïste, lui qui n'arrête jamais de faire la leçon en permanence à tout le monde sur leur attitude, sur leur façon d'être, sur leur compétitivité, sur « ouais, moi, je suis là pour mes coéquipiers », je sais plus. Je le trouve insupportable, Draymond Green.
Ouais, en tout cas, il a énormément de chance, ce mec. Il a énormément de chance d'avoir les coéquipiers qu'il a, parce que son expulsion, elle est anecdotique. Et elle est anecdotique parce que ses coéquipiers lui ont sauvé la peau et qu'ils ont réussi à aller chercher cette victoire dans un match, tu l'as dit, qui était absolument capital, sans quoi ça aurait pu être un énorme problème et une pierre de plus dans le jardin de Draymond. Je suis d'accord avec toi sur les images de Curry. Je trouve qu'elles sont assez terribles, ces images où il est au centre du parquet, les bras ballants. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a énormément de dépit. Bah écoute, quelque part, j'ai envie de te dire tant pis pour lui. Hein. Tant pis pour lui, on l'a déjà évoqué. Pour moi, Steph Curry et Steve Kerr, ils sont responsables. Ils ont une vraie part de responsabilité dans le fait que Draymond Green ne comprend pas, ne change pas, n'évolue pas, qu'il est toujours là. Enfin, on l'a dit, il y a un manque de leadership quelque part dans cette franchise, parce que laisser ce mec-là continuer à partir en vrille comme il le fait depuis des années et des années, c'est à combien, je crois que c'est la 20e expulsion de sa carrière ou quelque chose comme ça.
La quatrième cette saison, en tout cas, je crois que c'est...
C'est... Ouais... Je sais sais pas quoi dire. Enfin, franchement, moi, je suis comme toi, hein. Moi, Draymond, j'en peux plus, quoi. J'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de ces mea culpa tout le temps, là.
Et puis dans son podcast, non mais il est d'une suffisance, c'est absolument fascinant en fait. Sa façon de commenter, d'assurer le commentaire de son propre comportement. Je sais pas. Moi j'arrive plus à écouter autant, tu vois, quand il faisait son podcast pendant les finales 2022 là, et après coup. La vie de Draymond Green, à la limite, je trouvais que c'était audible. J'avais envie d'écouter ce qu'il avait à dire. Son point de vue pouvait être intéressant. Aujourd'hui, j'arrive plus à l'écouter. J'en ai marre de ses excuses. J'en ai marre de ses explications. Il est vraiment énormément descendu dans l'estime que j'avais de lui. T'as raison. La responsabilité de la franchise, de Steve Kerr, de Stephen Curry lui-même est assez grande. Je sais pas à quel point Stephen Curry on a absolument ras-le-bol de ce comportement, mais j'ai pas l'impression que les Warriors aujourd'hui ont intérêt à maintenir cette relation avec lui. Enfin, je veux dire, c'est Tim Legler qui a réagi dans un podcast récemment là où il a été invité, donc très très récemment là, il y a quelques jours de ça, où il explique très bien que ce comportement-là de Draymond Green et d'un égoïsme qui ne peut pas être accepté de la part de ses coéquipiers.
Bien sûr.
Il explique bien, en tant qu'ancien joueur, c'est tout bonnement inacceptable. Bizarrement, plus que le comportement qu'il a eu vis-à-vis de Rudy Gobert, c'est inacceptable. Et les red flags, les avertissements, on en a déjà eu. C'est un joueur qui a cogné son coéquipier pendant un entraînement, Jordan Poole, et qui a entraîné donc tout ce qui s'en est suivi. Je sais pas si ce truc-là est la limite. Quelque part, c'est un événement qui paraît assez anodin par rapport à tout le reste, par rapport à Gobert, par rapport à ce qui s'est passé avec Jordan Poole. Mais j'ai l'impression que potentiellement, c'est le coup de grâce pour lui, quoi.
Bah, c'est anodin parce que les Warriors ont gagné, hein. Vraiment, s'ils avaient perdu ce match, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus problématique maintenant. Ouais,
La saison est pas terminée. Les Rockets, on va en parler tout à l'heure, sont à un match de revenir sur eux. Alors, ils ont le tiebreaker sur les Rockets, hein, Golden State. Il y a un match face à Houston le 5 avril.
Et ils ont un calendrier plus facile que les Rockets aussi.
Ils ont un calendrier plus facile que les Rockets. Mais ils ont quand même quelques équipes pénibles. Dallas, ils ont les Lakers, ils ont les Pelicans, ils ont deux fois Utah. Et Utah, ça peut être une équipe un peu pénible à jouer. Et vu les Warriors aujourd'hui, je veux dire, il n'y a aucune victoire qui est garantie, j'ai envie de te dire.
Bien sûr, non mais c'est ça, c'est que les Warriors, de toute façon, c'est leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Mais oui, effectivement, ils ont, de toute façon, Dallas, ça va être l'arbitre de cette fin de saison. Dallas, ils jouent deux fois les Warriors et deux fois les Rockets, là, d'ici la fin de saison. Donc, c'est clairement eux qui vont arbitrer cette lutte pour la dernière place pour le play-in. Écoute, oui, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est complètement de l'égoïsme et c'est d'autant plus frustrant que ça se passe dans une équipe qui a souvent érigé le collectif en valeur essentielle. On se rappelle du strength in numbers avec mon accent magnifique. Bon ben voilà, moi ça me dérange de voir ça, et puis ça me dérange vraiment de voir la passivité de Steve Kerr. C'est-à-dire Steve Kerr qui après le match nous dit il va rebondir, c'est pas si grave. Steph Curry qui dit je vais continuer à discuter avec lui, c'est mon ami, c'est ce que je suis censé faire. Ben non mec, si t'es vraiment son ami, là ce que t'es censé faire c'est pas discuter avec lui, c'est lui mettre un vrai coup de pression, lui faire comprendre que ben c'est plus possible de faire ça et qu'il pénalise beaucoup trop de gens en ayant un comportement aussi débile. Parce que pardon du terme, mais Draymond sur un parquet parfois il est d'une bêtise incroyable. Et c'est tellement frustrant parce que ce mec-là est aussi capable d'être d'une intelligence incroyable sur un parquet.
Il est surtout d'une importance capitale dans cette équipe et dans la façon de fonctionner et dans son jeu à deux avec Curry. On en a déjà parlé en long, en large et en travers. Et c'est pour ça qu'il est toujours avec les Warriors. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences hormis ses suspensions et tout ça.
Oui, mais là, on est un peu en train de changer d'air côté Warriors, quand même.
J'ai l'impression aussi, et c'est ce que dit Tim Legler, qu'il y a probablement une différence entre les propos tenus en public par Stephen Curry et Steve Kerr et ce qu'eux-mêmes pensent personnellement dans le privé, quoi.
Oui, mais ça, pour l'instant, ça ne se traduit par rien du tout.
Moi,
je veux bien qu'en privé, ils soient super énervés, qu'ils se disent qu'il faut faire changer les choses. Mais dans ce cas-là, il faut agir, en fait. Et pour l'instant, ils n'ont jamais agi.
Et je repensais à ce que tu disais par rapport à Draymond Green. Qui voudra Draymond Green avec le contrat qu'il a et les années qui restent? Et hormis les Warriors, où il a tout à fait sens, où il fait sens avec Stephen Curry, effectivement, là, aujourd'hui, si cette saison doit être l'étalon de qui est Draymond Green aujourd'hui, je vois pas quelle équipe va aller prendre ce type-là dans son collectif, sachant que si en plus ce gars-là est pas content, il peut être encore plus toxique qu'il ne l'est déjà sur un terrain.
Exactement, donc, parce que c'est ça. C'est que moi, si je suis general manager d'une franchise, je me dis, attends, ce mec-là, un franchise player avec l'aura de Steph Curry et un coach avec l'aura de Steve Kerr n'a pas réussi à le calmer, n'a pas réussi à le canaliser, mais comment est-ce que moi je vais m'en sortir? C'est clair, hein. Ou alors il te faut un mec qui a vraiment, il te faut un coach qui a vraiment une aura incroyable, mais c'est un pari aujourd'hui qui est beaucoup trop risqué, et puis avec un niveau de salaire en plus qui fait que t'as pas intérêt à te planter, quoi.
Dans le podcast dans lequel se trouvait Tim Legler, le discours a aussi bifurqué un moment sur les propos de Draymond Green, tu sais, qui justifie toujours ce comportement en disant « Ouais, moi j'ai toujours été comme ça,
oui.
C'est justement cette attitude et cette façon d'être qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. » Et un des intervenants expliquait très justement, à mon avis, que il dit « C'est pas parce que... » Cette façon de Draymond Green de justifier le fait d'être un... Excusez-moi, mais d'être un trou du cul fini parce que ça l'a mené là où il est aujourd'hui, c'est la pire justification qui soit, parce que il y a aussi une chose dans la vie, c'est qu'on doit tous évoluer, l'évolution, et apprendre de ses erreurs et être capable de changer, justement, et d'évoluer avec le temps. Aujourd'hui, Draymond Green est à un stade de sa carrière où il n'est pas... Enfin, où c'est injustifiable d'adopter le comportement qu'il a aujourd'hui, quoi.
Mais bien sûr.
Et voilà. Et encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Cet égoïsme sans limite dont il fait preuve, là, c'est pas autre chose. Il y a pas. Quand tu regardes comment, en plus, il insiste lourdement auprès de l'arbitre en le prenant pour un con, littéralement, il est là à lui répéter tout le temps la même phrase. Pour lui faire comprendre qu'il n'est absolument pas d'accord avec sa façon d'arbitrer ce début de rencontre, c'est inacceptable, c'est juste inacceptable.
Ouais, c'est inacceptable, et puis surtout, par pitié, arrêtez, je ne sais pas s'il y en a qui y croient encore, mais qu'on arrête de croire que ce mec-là, il va changer, en fait, c'est terminé maintenant.
Oui, c'est terminé.
Il n'a plus changé, il faut arrêter, là. Il faut arrêter les frais, il a 34 ans, là, ouais, c'est ça, il a eu 34 au début du mois. Il touche entre 22 et 27 millions jusque fin 2027. Je suis désolé, mais Draymond ne changera pas. Et bon courage à ceux qui vont devoir gérer son cas à partir de la saison prochaine, que ce soit les Warriors ou quelqu'un d'autre.
J'ai toujours été, pour terminer sur Draymond Green, j'ai toujours compris pourquoi les Warriors maintenaient ce type-là en place.
Jusqu'à cette saison.
Ouais, là, aujourd'hui, là, alors maintenant, tout de suite, je suis persuadé que la meilleure chose pour Golden State, c'est de se séparer de lui.
Je suis d'accord.
Ça ne peut plus durer et Stephen Curry ne devrait pas souhaiter finir sa carrière avec ce mec-là dans les pattes.
Je suis d'accord et je vais même aller plus loin, et c'est peut-être un peu violent, mais je pense même que ce qui serait le mieux pour les Warriors, là, c'est qu'ils se qualifient même pas pour le play-in, qu'ils se fassent griller la place pour les Rockets, c'est que ça soit le déclenchement.
Tout à fait.
Tu vois, le truc qui leur fasse... Le moment où ils comprennent, ouais. Là, il faut vraiment tourner la page et passer à autre chose, ce qui veut évidemment pas dire trader tout l'effectif. Hein. Tu peux continuer avec Steph Curry, tu peux continuer avec des Kuminga, des mecs comme ça, mais à un moment, faut arrêter les frais avec Draymond Green.
Tout à fait d'accord. Je voulais revenir sur les déclarations de Nick Nurse concernant Joel Embiid. Il a préconfirmé finalement que Joel Embiid devrait être de retour avant même le début des playoffs. Depuis que Joel Embiid est blessé, les Sixers ont 10 victoires, 16 défaites, il me semble. Ils sont huitièmes de la conférence Est, donc ils sont partis pour faire le play-in, potentiellement un seul match s'ils remportent ce duel entre le 7 et le 8 pour accrocher la septième place. J'ai été surpris de cette annonce, je suis plutôt content pour Philadelphie, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je t'avoue, concernant les Sixers, étant donné que je me pose la question de savoir dans quel état de forme va revenir Joel Embiid, quoi.
Ouais, moi ça m'inquiète surtout en fait.
Ouais.
Ça m'inquiète parce que t'as parlé de l'éventuel match de play-in. À l'heure actuelle, il jouerait le Heat. C'est pas un adversaire doux le Heat, quoi. C'est, tu vois, tu dois te faire violence dans un match face au Heat. Et ouais, ça m'inquiète de savoir dans quel état il va revenir. Déjà, évidemment, il sera en manque de rythme. Bon, en tout cas, j'espère que Nick Nurse aura l'intelligence. Bon, je pense que c'est un coach très intelligent et j'espère qu'il aura l'intelligence de ne pas prendre trop de risques. Mais oui, ça m'inquiète. Ça, j'espère qu'ils n'ont pas forcé les choses. Il a été opéré quoi, il y a 2 mois.
Mm-hmm.
Bon, on verra. Moi, dans tous les cas, je t'avoue que j'ai pas de grande attente en fait pour cette équipe de Philadelphie. Même si Embiid est de retour, il sera évidemment pas à 100%. On a déjà vu la saison dernière ce que ça peut donner, et d'autres saisons, un Embiid pas à 100%, même si ça reste très fort, c'est pas suffisant pour être ambitieux. Donc ouais, je suis plus inquiet que content pour eux.
Et il reste 9 matchs d'ici la fin de la saison. Je vois pas trop sur quelle fenêtre de tir il pourrait revenir. Est-ce qu'il va jouer les 3 derniers? Est-ce qu'il va... Enfin, je sais pas. J'ai hâte de voir comment Philadelphie va gérer ça. J'ai hâte de voir comment Embiid lui-même va gérer sa carrière, parce que quelque part, c'est son avenir aussi qui est en jeu.
Bien sûr.
Moi, ça me semble extrêmement risqué de faire ça. Maintenant, si le staff médical lui donne le feu vert, que lui estime qu'il n'a pas de risque d'endommager plus que ça son genou et qu'il peut être efficace, je sais pas, gros point d'interrogation. En tout cas, très surpris d'entendre ces paroles de la part de Nick Nurse. Agréablement surpris, j'ai envie de dire. Je suis tout à fait pour que Joel Embiid revienne au cours de cette saison et joue avec cette équipe de Philadelphie qui se bat corps et âme pour essayer de rester accroché dans ce play-in, mais bon.
De toute façon, il n'y a pas de doute. Il va revenir. On a vu que là, il avait repris l'entraînement avec l'opposition. Il voyage avec l'équipe, etc., etc. Donc ça, c'est clair qu'il va revenir. Maintenant, la question, c'est combien de temps il va mettre à revenir? Combien de matchs il va avoir pour monter en puissance et se remettre dans le rythme? Parce que vraiment, j'insiste, Miami, c'est pas une équipe que t'affrontes à court de rythme, quoi. C'est une équipe, c'est dur de jouer Miami, surtout dans un match à élimination directe. C'est vraiment pas détendre, les mecs. Il faut pas prendre de risques.
Ouais. Ce sera pas une élimination directe, parce que si jamais ils perdent duel 7-8, ils ont un autre duel face soit Chicago, soit Atlanta. Pour l'instant, Atlanta.
Ouais, avec un bel écart sur le 11e. Hein, donc, il y a quand même peu de chances que ça bouge.
Atlanta, ça fait 2 fois qu'ils topent
les
Celtics.
C'est dingue.
Ça me fait trop rire à chaque fois sur des espèces de buzzer-beater pas possible. DeAndre Hunter.
En feu.
C'est clair. Elle me fait trop rire, cette équipe d'Atlanta. C'est le genre de truc de fin de saison, tu t'y attends pas, comme Houston d'ailleurs. Avant de commencer nos trois sujets principaux, juste un petit clin d'œil, parce que la semaine dernière, on parlait des paris sportifs en NBA, de l'influence que ça pouvait avoir, et ainsi de suite. Et là, on a eu John T. Porter, le frère de Michael Porter Jr. des Nuggets, qui joue aux Raptors et qui a été mis un peu à l'amende par la NBA, qui va faire l'objet d'une enquête sur des paris qui ont été portés sur ses performances ces derniers matchs, soupçonnés d'être truqués.
Ouais.
Donc, il y aurait eu des paris sur ses performances et donc il y a un doute sur le bien fondé de ses sorties de match et ainsi de suite, comme quoi potentiellement il serait partie prenante dans tout ça, enfin voilà. Et le risque, c'est qu'il soit banni à vie de la NBA, enfin c'est quand même pas rien, et j'ai l'impression qu'il va servir potentiellement d'exemple. Style, on prend un journeyman de la NBA, on le banne pour le reste de sa carrière de la Ligue, et on montre ça à tout le monde en disant, regardez, on prend ça très au sérieux.
C'est ce qui vous attend si vous déconnez.
Le premier qui déconne, voilà ce qu'on vous réserve, quoi. Et je sais pas ce qu'il va en être, mais je trouve ça horrible pour ce joueur. Très franchement, j'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça.
Ouais, je suis d'accord, et puis j'ai hâte de voir la réaction du syndicat des joueurs aussi. J'aimerais bien qu'ils se positionnent très clairement sur ce sujet, mais pas uniquement sur le cas de Porter, hein, sur le sujet global. Mais oui, effectivement, le risque, c'est qu'ils servent d'exemple. Enfin, le risque, en fait, c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. L'enquête, elle vient d'être lancée. On sait rien de ce qui se passe. Mais oui, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on évoquait la semaine dernière, des suspicions potentielles qui peuvent naître sur les joueurs,
ça va finir par toucher absolument toutes les strates de la ligue, évident.
Tout à fait. C'est un peu triste.
Ouais. J'ai même envie de te dire, même le mec qui tient les stats.
Bah ouais, même le mec qui nettoie le parquet, quoi. Tu vois, celui qui essuie le parquet. Il va faire exprès de laisser des traces pour gêner.
Le mec qui va compter une passe décisive alors que, limite, l'interprétation laisse à désirer.
Ouais, non, mais là on en rit, mais honnêtement, c'est pas un sujet drôle. Et franchement, en tant que fan de NBA, moi, je suis très franc avec toi, ça me saoule cette histoire de ça me saoule que les paris prennent une place de plus en plus importante dans la ligue, ça me saoule qu'on voit apparaître ce genre de sujet, ce genre d'enquête, c'est pas ce qu'on aime, quoi.
En tout cas, je voulais juste faire ce petit clin d'œil parce qu'après cette conversation qu'on a eue la semaine dernière, ça, j'ai trouvé ça assez ironique que ça enchaîne là-dessus, quoi. Bref, parlons d'Anthony Edwards et des Wolves. Il y a une dizaine de jours, Anthony Edwards a envoyé John Collins au Panthéon du basket avec un dunk irréel lors du match opposant Minnesota au Jazz d'Utah. Le dunk était si violent qu'il s'est démis le majeur de la main gauche. Il allait se le faire remettre dans les vestiaires avant de revenir tirer ses lancers francs. Ce soir-là, les Wolves jouaient sans Karl Anthony Towns, qui est blessé depuis début mars. Il n'y avait pas non plus Rudy Gobert ni Naz Reid. On a vu que cette action d'Anthony Edwards, on l'a évoqué un peu la semaine dernière, a eu pour effet de galvaniser son équipe. Ils sont à 6 victoires, 3 défaites depuis la blessure de Karl Anthony Towns. Les coéquipiers d'Anthony Edwards sont tous unanimes concernant son attitude dans le vestiaire. Malgré ses 22 ans, il se comporte comme un leader sûr et en dehors du terrain, en assurant notamment à chacun de ses coéquipiers de sa confiance dans leurs capacités. On a vu plusieurs témoignages dans ce sens-là, notamment de Conley, de McLaughlin récemment, Jaden McDaniels. Plus le temps passe, plus Anthony Edwards démontre une évolution qui confirme tout le bien qu'on pense de lui, et les résultats s'en ressentent. Je pensais voir les Wolves décrocher beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait.
Ouais.
Ils sont tout à fait au contact de la première place. La première place de la Conférence Ouest est encore dans le domaine du possible.
Bien sûr.
Ils affichent une défense de fer. Ils débordent de confiance en eux. Ça se sent sur le terrain. On voit que dès qu'il n'y a pas un seul match où ils arrivent en se disant « Oula, ça va être compliqué, quoi. » Ils arrivent, c'est on va le gagner, ce match. Est-ce que tu es étonné, Charlie, par les performances de Minnesota depuis la blessure de Towns ou pas?
Bien sûr, oui, bien sûr, parce que moi je suis comme toi, je pensais que ça allait être difficile de compenser à ce point-là. Towns, il est absent depuis 10 matchs, le bilan collectif des Wolves sur cette période, c'est 7 victoires, 3 défaites.
Et alors, t'as raison, ouais, je me suis pas mis à jour, tiens, sur le nombre de victoires.
C'est juste dingue, alors évidemment, c'est pas Anthony Edwards qui compense à lui seul cette absence, loin de là, hein. On a vu Chris Finch s'adapter, il a demandé à d'autres joueurs de prendre un volume de tir plus conséquent, notamment en termes d'adresse extérieure. C'est simple, depuis que Kat est plus là, les Wolves tirent plus à 3 points que quand il était là.
Ouais, ils étaient 25e quand Towns était là, et là ils sont 12e actuellement, et ils affichent un pourcentage qui est 7e meilleur pourcentage de la Ligue.
Voilà, et sur Anthony Edwards, moi, il y a un truc sur lequel je veux revenir dans ce que tu as dit, parce que pour moi c'est un élément qu'on ne met pas du tout assez en valeur. Ce mec n'a que 22 ans. Un Luka Doncic a 3 ans de plus, Shai Gilgeous il a 3 ans de plus, même Haliburton il a 2 ans de plus. Anthony Edwards, il est plus proche en termes d'âge de joueurs comme Banchero ou Chet Holmgren que de mecs comme Doncic ou Shai Gilgeous. C'est C'est incroyable, en fait, ce qu'il montre à cet âge-là. Et c'est fou parce que cette donnée de l'âge, on l'oublie beaucoup parce que bah, quand tu le vois sur un parquet, jamais de la vie tu te dis que ce mec-là, il a 22 ans. Jamais. Ses attitudes, ses progrès, il est hallucinant. En fait, il progresse dans des domaines sur lesquels on attend d'un joueur, enfin, on attend des progrès d'un joueur plus âgé. Tu vois, c'est comme quand on dit que Wembanyama progresse trop vite pour son âge, par exemple, dans les lectures défensives. Et bien, Anthony Edwards, c'est pareil, il progresse trop vite pour son âge. Il fait des progrès, mais dans tout. Cette saison, il a bossé sur son tir longue distance, il a progressé en adresse extérieure. Chaque saison, depuis son arrivée dans la ligue, il progresse un peu en la matière. Il apporte de la variation à son jeu. Alors, moi, je trouve qu'il devrait aller plus souvent au cercle sur certaines situations, mais. Il apporte énormément de variations à son jeu. Il a fait des progrès à la création. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. C'est la première saison de sa carrière où il tourne à plus de 5 passes décisives par match. Alors, évidemment, il y a du déchet. Il perd plus de 3 ballons, mais c'est normal, d'autant plus qu'il est de plus en plus sollicité. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense qu'il fait facilement partie du top 6-7 des plus gros taux d'usage de la ligue. Je pense qu'il doit être autour de joueurs comme Shai Gilgeous, voire Steph Curry ou des mecs comme ça. Donc ouais, je suis halluciné. On connaissait depuis longtemps ses capacités athlétiques, son explosivité, son côté spectaculaire, mais je trouve que vraiment cette saison, il a tellement progressé dans la lucidité, il est tellement plus conscient de ce qui se passe autour de lui sur le parquet, il est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, son true shooting percentage est largement le meilleur de sa carrière. Enfin ouais, je suis très étonné. Je suis étonné par les Wolves collectivement et je suis halluciné par Anthony Edwards individuellement.
Il est quatrième de la ligue en taux d'usage.
Ah oui.
Ouais. Donc, effectivement, il est tout en haut. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, je pense, c'est son attitude vis-à-vis de ses coéquipiers, les propos qu'il tient. Il a, tu sais, à sa façon, en fait, un peu sans filtre. Il me fait marrer, Anthony Edwards, dans sa façon de parler de son sport et de son évolution et tout ça. Mais tu vois, il dit, voilà, au début de ma carrière, grosso modo, j'avais un peu les œillères, je pensais beaucoup à mes performances. Et aujourd'hui, j'ai compris que je ne pouvais pas gagner sans mes coéquipiers. Et je leur dis à tous autant qu'ils sont, j'ai confiance en vous. Si je vous file la balle, n'hésitez pas une seconde, prenez le tir si vous êtes ouvert. Si c'est dedans, tant mieux. Si c'est pas dedans, tant pis. On est ensemble, quoi. Et c'était cette espèce de maturité et sa capacité à emmener un groupe qui, je trouve, est assez difficile à juger déjà. C'est assez compliqué. Et concernant Anthony Edwards, je me base beaucoup sur ce que disent ses coéquipiers et la façon dont ils réagissent à ses propres performances sur le terrain. Et son dunk est une chose, mais c'est pas assez. C'est pas à partir de ce moment-là qu'on a senti ça cette saison. Il y a eu plein de moments cette saison où on a senti que il y a qu'à voir, par exemple, Nickel Alexander Walker ou McDaniels, la façon dont ils se comportent vis-à-vis d'Edwards, comment ils en parlent et ainsi de suite, l'influence qu'il a eue et comment leur performance augmente d'une saison à l'autre. Je suis assez impressionné par ça, en fait. Et à 22 ans, être capable de mener un groupe comme ça et d'accepter ce rôle, de prendre ça sur ses épaules, sans rechigner, sans être égoïste, sans... Enfin, je trouve ça assez, assez admirable, en fait. Et Chris Finch le dit également. Il le dit, Anthony Edwards, c'est un mec ultra compétitif. Non seulement il est ultra compétitif dans sa performance individuelle, mais qui a tout à fait confiance que sa performance individuelle est tout aussi importante que le fait d'emmener tous ses coéquipiers avec lui. Et les performances de Minnesota cette saison sont, pour moi, s'en ressentent, clairement. Si Minnesota est aujourd'hui dans le top 3 de la Conférence Ouest, c'est aussi parce qu'Anthony Edwards est capable de faire ça. Et c'est quelque chose de rarissime à son âge. Et je trouve ça magnifique, en fait.
Mais moi, je trouve que c'est même au-delà de son âge, c'est quelque chose de rarissime tout court. C'est une discussion qu'on a souvent eue. Tu vois, des franchise players en NBA, il y en a peu en réalité, des vrais franchise players. Et lui, en termes de mentalité, on sent qu'il a absolument tout, qu'il est complètement armé pour être ce mec-là, pour être ce franchise player. Et c'est, c'est hyper important, c'est que ses qualités de leadership, elles sont tellement claires, sa capacité à se faire violence pour répondre présent dans les moments difficiles. Anthony Edwards, il a ça en lui, il veut tout, ce mec-là, il veut être
All-Star. Et des deux côtés du terrain.
Et voilà, et c'est exactement ça.
Tant
c'est...
offensivement que défensivement. Défensivement, en fin de match, il va défendre sur les joueurs les plus problématiques.
Et oui.
En attaque, il va prendre les tirs compliqués. Mais sans non plus être un croqueur dégueulasse qui prend des tirs complètement stupides. Non, si son coéquipier est ouvert, je pensais à un match, je sais plus lequel, j'ai pas noté, mais où il fait la passe à Jaden McDaniels et dans la conférence de presse d'après match, il dit mais tous les jours je lui fais la passe parce que je suis persuadé qu'il va le mettre, même ouais. S'il le met pas, je m'en fiche, il est ouvert. Moi, j'ai pas le tir, je fais la passe. Et ça, pour moi, c'est incroyable.
Et ouais, il donne une confiance incroyable à ses coéquipiers. Et il est d'une ambition qui est absolument hallucinante. C'est-à-dire, ce mec-là, il veut pas juste être All-NBA team, tu vois, il veut aussi être All-Defensive team. Il se donne les moyens de ses ambitions et il donne une confiance incroyable à ses coéquipiers. Et tu vois, il a un peu ce côté. En fait, il y a des matchs où tu vois, où tu ressens vraiment que Spacha, il a décidé de le gagner. Et ouais. C'est tout en fait. Et il va le gagner, tu vois. Il y a le match début mars là face à Indiana où ouais. Il leur met plus de 40 points dans la tronche avant d'aller foutre un énorme compte à Nesmith qui part au layup sur la dernière possession pour aller en overtime. Mais ça c'est du comportement de patron absolu du début à la fin. Ce mec là est allé chercher ce match et c'est génial de voir ça. Et effectivement, tu l'as dit, défensivement, il n'est pas non plus là pour rigoler. Alors on n'en parle pas forcément énormément parce que c'est pas la première référence des Wolves en la matière. Évidemment, c'est Gobert qui est là pour faire ça et qui d'ailleurs s'est plusieurs fois exprimé au sujet de la défense d'Edwards en disant qu'il avait tout pour devenir un des meilleurs défenseurs, qu'il devait progresser dans la défense loin du ballon, mais que sur l'homme, il était déjà très fort. Et tu vois bien qu'Anthony Edwards, mais tout ça, il le prend hyper bien en fait. Il a pas du tout cette espèce d'ego mal placé. Où tu vois, il pourrait se dire, mais attends, le patron de l'équipe, c'est moi, personne n'a à remettre en question ce que je fais, ma défense, elle est déjà élite, aucun problème avec ça, de par ses qualités physiques, il est capable de défendre sur des profils extrêmement variés, et en fait, il est déjà en train de s'affirmer comme un des franchise players les plus complets de la ligue, alors que, je le redis, le mec a 22 piges.
C'est impressionnant.
C'est incroyable.
C'est vraiment impressionnant, et Karl-Anthony Towns, qui est un All-Star, c'est ce que dit Chris Finch. Ils ont déjà... L'absence de Karl-Anthony Towns n'est pas un drame autant que ça pourrait l'être pour n'importe quelle équipe autre qui perd un joueur All-Star de son effectif. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà vécu ça l'an dernier. L'an dernier, ils ont passé une majeure partie de la saison à jouer sans Karl-Anthony Towns. Donc, ce qu'explique Chris Finch, c'est que grosso modo, ils ont juste eu à reprendre les habitudes qu'ils avaient déjà développées l'an passé. La saison passée, et que voilà, l'absence de Towns, c'est aussi plus de spacing, plus de rythme. Quand tu vois le pace avec lequel jouent les Wolves aujourd'hui, ils ont accéléré le rythme du jeu naturellement. C'est aussi pour ça qu'ils ont plus de tentatives de tir à trois points, notamment. Le 5 majeur qu'ils ont mis en place, là, échantillon absolument microscopique, mais le 5 Reed, Gobert, McDaniels, Conley, Edwards. Ils ont un différentiel de points qui les place parmi les meilleurs 5 de toute la NBA. Ils sont absolument phénoménaux défensivement. C'est dans l'attaque aujourd'hui qui pêche un peu, mais ils ont une telle défense qu'ils arrivent à compenser. Et ce que dit Chris Finch, c'est qu'avec un peu plus d'automatisme, à retrouver les automatismes de la saison passée, logiquement, ça devrait bien se passer. Tu regardes les chiffres avec Nasrid dans cet effectif. Tout porte à croire que ça va bien se passer. Et ils n'ont aucune raison de précipiter le retour de Towns. Et moi, je crève de voir aujourd'hui Anthony Edwards, et ça, pour moi, c'est l'élément qui est à mettre au-dessus de tout quand je parle d'un joueur et de la qualité d'un joueur. C'est, tu peux faire ce que tu veux en saison régulière, c'est bien, tant mieux. Mais Edwards, l'an dernier, face à Denver, premier tour, même s'ils se font éliminer, nous a démontré que c'était un joueur qui est largement en mesure de répondre présent en play-off. Et là, je trépigne d'impatience de voir ce joueur à nouveau en play-off, voir ce qu'il va nous concocter. Et j'ai bon espoir de le voir encore une fois répondre présent à ce moment-là, quoi.
Et oui, c'est ça. Anthony Edwards, en fait, il nous a déjà prouvé qu'il fait partie de cette caste de joueurs capables de hausser leur niveau en playoff. Et c'est déjà phénoménal quand tu vois son niveau en saison
Bon,
régulière, mais.
ça pour moi, c'est ce qui démarque, c'est le plus grand c'est
Bien
le plus
sûr.
grand point de démarquage parmi l'élite de la NBA.
Tout à fait, c'est exactement ça. Quand tu fais partie de la caste Jimmy Butler, la caste des mecs qui en
Ouais, mais lui,
playoff.
il a poussé le délire trop loin, lui.
Non mais ouais, non, c'est clair, moi j'ai tellement hâte de le voir en playoff, hein, vraiment, t'as parlé de sa série face à Denver la saison dernière, alors ok, il perd en 5 matchs, mais bon, c'était les Nuggets en face, hein.
Ah, mais
Mais
il
plus de
posait.
31 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes,
Il
le
était
match,
intenable.
il
Il était
était
intenable.
hallucinant.
C'était impossible de le tenir.
Et il avait 21 ans. C'est dingue, non mais vraiment c'est dingue. Moi j'en fais beaucoup sur son âge, mais parce que les gens se rendent pas compte. Mais vraiment, 22 ans, c'est rien, vraiment. C'est fou de voir ça à cet âge-là. C'est fou.
Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, les Wolves là, sont repartis devant le Thunder. Ils sont sur une série de 3 victoires consécutives. Ça termine comment l'agenda, tiens, des Timberwolves? Ça se termine avec bah, tiens, Denver ce week-end. Oh la vache, c'est ce soir, c'est cette nuit là. C'est cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi. À Denver, ça va être top.
Ça va être dur.
Après Chicago, Houston, Toronto, Phoenix, Los Angeles, Washington, Denver encore dans le 11 avril, Atlanta et Phoenix.
Ah, ce qui est un
Très,
peu dur, c'est que
très
les.
bon agenda.
Ouais, le problème, c'est que leurs matchs difficiles sont tous à l'extérieur quasiment, quoi. C'est à Denver les 2 fois, c'est à Phoenix, c'est à Los Angeles contre les Lakers.
Ouais.
Mais bon, il y a de quoi faire. Hein. Enfin, ils seront favoris de quasiment toutes les affiches qu'on a annoncées, sauf celle face aux Nuggets, quoi.
Alors attends, on va mater la difficulté de l'agenda qui reste. Minnesota, ils sont 13e. Oklahoma est 6e. Oklahoma, ils ont des sérieux clients à se farcir aussi d'ici la fin de la saison.
Ouais, et puis Oklahoma, ils sont là, ils sont déjà derrière.
Ouais, complètement, ouais.
Ils sont derrière. Bon, il n'y a pas d'écart, hein. Il n'y
Non,
a
non,
rien du tout,
ils ont
mais.
tie-breaker, il me semble.
Ouais, exactement.
Donc, ouais, ça va être passionnant cette fin de saison. Autre chose, vite fait, pour terminer sur Minnesota, je sais pas si tu as vu ça, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe là, mais Glenn Taylor vient d'annuler la vente de l'équipe aux
Alexandre Rivière.
propriétaires minoritaires du club que sont Marc Laure et Alex Rodriguez, ils le sont encore, hein. La procédure de rachat avait été entamée en 2021. Donc ils accusent, eux, Taylor, de vouloir revenir sur leur accord. Taylor, de son côté, affirme qu'ils n'ont pas respecté les échéances de paiement et leurs obligations dans la procédure d'achat. Selon ESPN, les relations entre les deux parties se sont gravement détériorées ces 2 dernières années. Des analystes affirment également que Taylor regrette d'avoir vendu pour un prix qui semble aujourd'hui très en dessous du marché. Je rappelle que donc il a vendu donc le c'était un package, hein. Il vendait les Wolves et les Lynx, donc l'équipe de WNBA, pour 1,5 milliard de dollars. Ces derniers mois, on a vu les Suns partir à 4 milliards, les Mavericks partir à 3,5 milliards, les Hornets à 3 milliards. Au moment où la NBA s'apprête à signer un nouveau contrat pour les droits de diffusion, où tout le monde dit que ça va être extrêmement juteux parce que les plateformes de streaming vont rentrer dans les négociations et que probablement ça va tirer tout ça vers le haut, il y a aussi élément indispensable à prendre en considération, c'est l'expansion à 2 équipes supplémentaires qui est imminente. Ce qu'il faut comprendre de cette expansion, c'est qu'il va y avoir donc des nouveaux propriétaires, de nouveaux clubs qui vont entrer et qui vont payer un droit d'entrée qui va se chiffrer en plusieurs milliards de dollars. Et c'est un chèque que vont se partager les propriétaires des 30 franchises qui sont là. Ce chèque ne sera pas partagé avec les joueurs. C'est un chèque qui ne concerne que les propriétaires. Et c'est aussi perçu comme un élément de motivation de la part de Glenn Taylor, comme quoi il aura envie de faire machine arrière pour aller palper le max de blé dans cette opération et sûrement revoir à la hausse. Donc lui, il a fait un communiqué en disant: Ah, mais attendez, Marc Laure et Rodriguez, ils peuvent tout à fait rester propriétaires minoritaires. Le but, c'est de voir cette équipe avec Anthony Edwards, qui, de sa seule présence, fait que le club a pris grave de la valeur. Et pour les années à venir, très probablement. Je ne sais pas comment tu vois ça. Je ne sais pas comment ça va se décanter au fur et à mesure. Je ne sais pas quel impact ça va avoir en termes de management de l'équipe. Mais franchement, c'est quelque chose qui est indéniablement important pour cette équipe,
ouais,
sportivement.
C'est ça. Il faut espérer que ça ne parasite pas trop les performances sur le parquet. Maintenant, bah, je sais, en fait, je trouve que c'est un peu difficile à lire. En fait, Glenn Taylor, on a un peu l'impression qu'il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Ça fait déjà des années et des années qu'un coup, il veut vendre et puis finalement, il ne vend pas. Donc...
Exactement,
ouais. Donc ouais, je sais pas très bien, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Juste te dire, j'espère que ça va pas être un frein pour une franchise qui a le vent en poupe d'une manière hallucinante, parce que elle a entre les mains un des franchise players du futur. Donc il faut clairement espérer que tous ces éléments hors parquet ne viennent pas trop bouleverser les choses.
Ce qui est sûr et certain, manifestement, de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Parce que moi, c'est un peu des sujets des coulisses NBA qui m'intéressent. Et je vais arrêter là parce que j'ai conscience que ça intéresse peut-être pas tout le monde. Mais il va y avoir une procédure. Très clairement, Marc Laure et Alex Rodriguez ne vont pas en rester là. Si la vente ne se fait pas, alors qu'ils étaient à deux doigts de clôturer l'affaire. Là, c'était en train de se terminer. Là. On était sur les derniers versements. Il va y avoir une procédure judiciaire et donc il va y avoir toute une... Et c'est ça que beaucoup de journalistes américains sont curieux de découvrir. C'est qu'on va avoir quelque part une loupe à travers la bataille judiciaire qui se profile. On va avoir une loupe sur comment ces négociations se déroulent en NBA. Chose qui est extrêmement opaque. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Et ça va être... avec ce que je viens de dire, avec le projet d'expansion de la ligue, avec la renégociation des droits médias derrière. Mais t'imagines bien que ça va être un truc de fou.
Ouais, non, c'est clair. C'est clair que ça va rythmer, très certainement rythmer l'actualité des prochaines semaines, voire des prochains mois. En tout cas, c'est sûr que vu le communiqué qui a été fait par Rodriguez et Laure, ils vont pas lâcher l'affaire, ça c'est sûr.
Et Adam Silver, tu peux être sûr que là, il doit pas être content du tout, quoi. Avoir un pseudo-scandale comme ça, qui touche les propriétaires. Donc les propriétaires, c'est les clients, enfin c'est les acteurs majeurs de la NBA. Enfin c'est eux la NBA. Donc bref, ça va être un bordel incroyable, potentiellement. On verra ça. On va parler des Rockets si tu veux bien. Il y a trois semaines, on avait évoqué Houston pour parler de la blessure d'Alperen Şengün, leur pivot extraordinaire, une des révélations de la saison. Si tu ajoutes à ça la confirmation au début du mois de mars que Tari Eason, également un jeune joueur prometteur, allait manquer le reste de la saison avec une opération à la jambe, très très sincèrement, il était difficile de voir cette équipe aller faire quelque chose cette saison, surtout aller chercher les Warriors ou les Lakers pour la dernière place qualificative du play-in. Moi personnellement, j'aurais pas parié un copec là-dessus. Et pourtant, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, Houston surfent actuellement sur une série de 10 victoires consécutives. Ils sont à un match de Golden State pour la 10e place au classement à l'Ouest. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Warriors qui ont le tiebreaker sur les Rockets, donc il faudrait qu'ils dépassent les Warriors en termes de victoires-défaites pour se saisir de cette 10e place de manière effective. Ça vient confirmer au final que cette équipe se trouve sur des bons rails. Ça confirme à mes yeux que le coaching d'Ime Udoka fait des merveilles, que l'influence des vétérans que sont Jeff Green et Fred Van Vliet auprès des jeunes talents est extrêmement bénéfique et que tout à coup, cette franchise est en passe de devenir une des équipes les plus sexy de toute la NBA, très en avance sur son projet de reconstruction. Le visage de cette métamorphose est sans conteste Jalen Green, qui était dans les discussions de transfert à la mi-saison quasiment... Pas quasiment, sûr.
Ah, sûr, ouais.
Pour Mikal Bridges, ah tiens, peut-être qu'on pourrait faire venir Mikal en échangeant Jalen Green. Moi, c'est un joueur dont j'ai toujours été extrêmement critique pour son jeu en isolation, pour son manque de maturité, pour son manque de lecture du jeu. Et tout d'un coup, il est en train de nous montrer les signes d'une progression susceptible d'en faire avec Alperen Şengün la pièce maîtresse des Rockets pour les 10 années à venir. Charles, Quel regard portes-tu sur cette série de victoires de Houston?
Bah, je suis très agréablement surpris. Moi, en début de saison, j'avais des attentes au sujet de cette équipe parce que j'aime beaucoup ce qu'avait fait Ime Udoka et le front office cet été en termes de choix. Et je suis absolument persuadé qu'Ime Udoka est un excellent coach NBA. Mais tu l'as dit, la blessure d'Alperen Sengun, il y a quoi, il y a 15 jours, ça m'a vraiment fait craindre une fin de saison régulière en demi-teinte, tu vois. Une espèce de truc sans grand enjeu où on attend un peu que ça se passe. Et finalement, c'est tout l'inverse. Tu l'as dit, série de 10 victoires consécutives. Alors, certes, dans cette série de victoires, il y a beaucoup d'équipes prenables. Il y a Portland deux fois, il y a San Antonio, il y a Washington deux fois. Mais ouais. Il y a aussi les Kings, il y a aussi les Cavs, il y a le Thunder en overtime cette semaine.
Et Charlie, tu gagnes pas 10 matchs consécutifs en NBA
par hasard. Surtout quand ton
c'est
meilleur joueur est
impossible.
Bien sûr. Non, mais t'as
c'est
tout à
impossible.
Raison. T'as tout à fait raison.
L'argument de oui, le calendrier était favorable, stop.
Non, mais
tu ne gagnes jamais. Non, mais je dis pas ça contre toi.
Oui, non, mais je sais bien.
Je dis juste de façon générale. Tu ne gagnes jamais en NBA 10 matchs consécutifs par pure chance tu joues que des chèvres. Non, comme ça que ça se passe.
Surtout qu'ils l'ont prouvé en allant aussi taper Sacramento, en allant taper Cleveland et en allant taper le Thunder là en overtime. Donc voilà. Le
Thunder, il y avait pas Shai Gilgeous-Alexander.
Oui, mais y a quand
Cleveland,
même...
je crois qu'il leur manquait je sais plus qui dans l'équipe, mais Evan Mobley qui jouait pas.
Sérieuse, tu vois,
ça reste des équipes sérieuses complètement. C'est la manière surtout dont il gagne, qui est absolument incroyable.
Ouais, non, mais tout à fait. Et ouais, aujourd'hui, tu l'as dit, ils sont sur les talons de Golden State. Alors, Golden State a eu la bonne idée de gagner ses deux derniers matchs face à Miami et Orlando, sans quoi ils se seraient déjà fait griller la 10e place en réalité. Donc ouais, c'est du bonheur, parce que c'est un vecteur de suspense et d'incertitude supplémentaire. Ça fait quand même un petit moment qu'on se projetait déjà sur le fait que les Lakers et les Warriors seraient quasiment à coup sûr dans le play-in. Bah, aujourd'hui, on en est moins sûr, et pour les Warriors, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se planter, n'est-ce pas, Draymond, sur cette fin de saison. Chaque erreur va se payer très, très cher. Et tu l'as dit, Jalen Green est en train de complètement crever l'écran. Il profite à fond de l'absence de Sengun pour se montrer. Il a vraiment pas toujours été indiscutable à Houston, loin de là. Tu as cité l'éventuel trade pour Mikal Bridges qui était discuté il y a quelques semaines. Ah, il est en train de voir sa cote monter en flèche, et surtout il est en train de donner de l'espoir à son équipe de pouvoir accrocher le play-in, et ce serait dingue même d'aller chercher les play-offs, enfin, ce serait fou. En plus, ESPN a évoqué la possibilité qu'Alperen Sengun revienne d'ici la fin de saison hier. Alors, on verra ce qu'il en est, j'espère qu'ils vont pas prendre trop de risques, mais ça nous garantit une fin de saison avec un suspense hallucinant à l'ouest, ça va être génial. Et le match du 5 avril face aux Warriors, il va valoir très 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 cher, ça fait partie des matchs de cette fin de saison qu'il faut surtout pas louper, quoi.
Complètement. Jalen Green est vraiment un joueur qui me fascine, parce que vraiment j'ai été extrêmement critique de ce joueur, et c'est pas un joueur en qui je croyais, et il est en train de me donner tort archi tort. Quand il jouait avec Kevin Porter Jr., là, cette période de Houston, je trouvais ça absolument indigeste, je ne pouvais pas regarder leur match, je trouvais ça absolument atroce.
Moi, c'était un des pires jeux, hein.
Voilà, l'éclosion de Sengun, pour moi, a commencé à modifier le jeu de Houston dans le bon sens. Et Ime Udoka, c'est ce que je disais dans l'introduction, Ime Udoka, il y a bien un moment où il va falloir quand même... Ok, il y a des choses qu'il a faites manifestement qui étaient tout à fait regrettables et critiquables.
Oui, mais on va parler de basket.
On va parler de basket. Et pour le reste, ça sera géré en temps et en heure. On verra... Bref, peu importe. Mais ce qu'il est en train de faire de cette équipe, la façon dont il tient les joueurs responsables de leur production sur le terrain, et à quel point il leur laisse rien passer, la façon dont cette franchise est pilotée, j'ai envie de te dire, c'est assez incroyable. Et Jalen Green, là, démontre plusieurs choses. Ses qualités de jeu en isolation n'étaient pas... C'était pas à douter, on savait très bien que c'était un très bon joueur en isolation. Mais là, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à Anthony Edwards, dans tout ce mois de mars-là, c'est la manière dont il joue. Et la manière dont il est en train de comprendre comment le jeu se déroule. Sa volonté de faire la passe quand il faut faire la passe aux joueurs qui sont démarqués. Sa façon de manipuler les défenses grâce à son jeu en isolation. Et tout en étant capable de créer de l'attaque à un niveau superstar.
Ouais.
Et le fait qu'il est capable aujourd'hui de condenser tout ça dans son jeu et dans sa compréhension du jeu est assez incroyable. Alors je pense très sincèrement que son efficacité à 3 points, où aujourd'hui il est quasiment sur les 13 derniers matchs, il est à un niveau d'efficacité, c'est Stephen Curry le gars.
Ouais, c'est clair.
Alors qu'avant, c'était Jordan Poole. Donc je pense que c'est pas possible qu'il tienne ce rythme-là. C'est pas possible que tu sois sur la même échelle que Steph Curry, ou du moins, si c'est le cas, waouh. Un sacré bond en avant, c'est même plus un bond en avant, c'est un truc, c'est du jamais vu, quoi. Cependant, je pense que la vérité se situe probablement entre les deux, et qu'il est potentiellement en train de passer un cap devant nos yeux maintenant, tout de suite, et c'est ça qui rend cette équipe absolument, et ce joueur absolument fascinant, c'est que il est en train de potentiellement passer un palier qui est extrêmement compliqué, et je pense que Ime Udoka a une partie intégrante là-dedans. Et aussi le fait d'avoir des Fred VanVleet et des Jeff Green dans le vestiaire qui l'aident. Et ça, on en avait déjà parlé, toi et moi. On s'était déjà posé la question au début de saison de savoir quelle influence pouvaient avoir ces joueurs-là dans le vestiaire, dans un vestiaire comme celui de Houston.
Tout à fait.
Et moi, je t'avais dit, je trouve ça extrêmement pertinent de la part de cette équipe de ramener des joueurs comme ça pour guider les jeunes. Et là, ils sont en train de récolter ce magnifique recrutement de début de saison. Et quand j'entends dire « Ah ouais, mais alors maintenant que Jalen Green est en train d'exploser », et autre chose, tiens, que je vois dans mes notes, Jalen Green n'est pas seulement un excellent attaquant. Il est également extrêmement... dans une courbe de progression extrême en défense.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'avant, c'est un joueur qui était ciblé par les attaques adverses.
Oui.
Aujourd'hui, toutes les statistiques avancées montrent que c'est un joueur défensif. Alors, il n'est pas élite-élite, mais il est solide. Il est solide au point où aujourd'hui, tu ne peux plus le cibler défensivement parce qu'il est tout à fait capable de défendre correctement et qu'il est en train de comprendre comment être efficace dans un schéma collectif défensivement. Et ça, c'est absolument génial. Offensivement, défensivement, Jalen Green est en train de comprendre que collectivement, il peut avoir son talent a un impact autrement plus important quand il sait l'utiliser avec ses coéquipiers autour de lui. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que c'est ça le basket.
Mais oui, mais c'est la marque
c'est
du coach.
C'est ça le plus dur à faire, c'est ça le plus dur à comprendre. Et maintenant, quand tu poses les choses et que tu te dis à Houston que tu as Jalen Green, Şengün, Amen Thompson, on en parlera plus tard, mais qui est absolument incroyable, Tari Eason, et tous ces joueurs-là, mais cette équipe a un avenir radieux devant elle. Radieux.
Ouais, tout à fait, et tu l'as dit... Pour moi, la progression de Jalen Green, elle porte forcément la marque du coach, parce que
sûr.
Intrinsèquement, ce mec-là, on le sait depuis longtemps, que offensivement, il a tout, ce type. Offensivement, c'est probablement un des meilleurs joueurs de 1v1 de la Ligue, Jalen Green. D'ailleurs, Bill Simmons, dans son podcast, l'a comparé à Kobe Bryant en disant...
Le jeune Kobe des années 90. Ouais.
En fait, en disant, mais qu'est-ce qu'il n'a pas, ce mec, en termes de move offensif. Et c'est vrai, il a absolument tout.
Maintenant, il est fou, absolument magnifique de le voir.
Voilà. Sauf que maintenant, ses qualités, elles sont utilisées dans le bon contexte, dans le bon tempo, au bon moment. Mmh. Et ça, c'est clairement la responsabilité d'Ime Udoka. C'est un boulot qu'il est en train de faire qui est absolument remarquable. Et tu l'as dit, l'avenir de cette franchise est forcément brillant. Alors, ça va être hyper intéressant parce que, si je ne m'abuse... lui et Jalen Green et Alperen Sengun sont tous les deux éligibles à une prolongation cet été. Donc moi j'ai très hâte de voir quelle décision va prendre le front office. Est-ce qu'ils vont se dire que Jalen Green ça y est il a explosé et qu'il faut absolument sécuriser son avenir, ou alors est-ce qu'ils vont se dire mine de rien nous on pense que là il est un peu en sur-régime et on n'y croit pas trop, donc on va profiter du fait que sa cote est au maximum pour essayer d'aller gratter quelque chose d'autre. Ça va être hyper intéressant de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas moi ce que j'adore avec Houston c'est... Tu sais, c'est toujours un peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Au moment de l'annonce de la blessure d'Alperen Sengun, on évoquait son absence pour toute la fin de saison et il y avait beaucoup de pessimisme. Et tu vois, c'est un peu ce côté, est-ce qu'on va avoir une fin de saison où les mecs, ils attendent juste que la saison se termine pour repartir la saison prochaine, ou alors est-ce que, au contraire, cette équipe qui n'a pas d'énorme ambition cette saison va profiter de la situation pour tester des joueurs, voir qui a les épaules pour répondre présent, tester éventuellement d'autres configurations, mettre en valeur d'autres mecs. Et finalement, cette période, elle est pleine d'enseignements pour préparer l'avenir, et pour Ime Udoka et le front office, c'est que du bonheur, c'est absolument génial. Parce que là, ils ont entre les mains un jeu qui leur permet énormément de possibilités, quoi.
Avec des profils qui collent parfaitement à Ime Udoka.
Et oui.
Tu vois Amen Thompson, qui est un arrière incroyable. Et qui est aujourd'hui utilisé comme pivot.
Oui, c'est ça. L'arrière, il y est fort.
Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Et Harrison, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que ce gars-là, il a un talent de dingue. Whitmore aussi, c'est pareil. Je veux dire, cette équipe, du début à la fin, il n'y a que des talents absolument incroyables qui composent cet effectif, quoi.
C'est ça. Et Jalen Green, 22 ans. Sengun, 21. Amen Thompson, 20. Jabari Smith Jr., 20. Whitmore,
Jabari
19.
Smith, on
n'en
a même pas parlé.
Et ouais.
Tu te rends compte?
C'est fou.
Et je suis... Les Rockets, c'est un peu comme le Thunder. Ils vont aller, j'ai l'impression, tout du moins, j'ai pas envie de m'avancer trop.
Plus vite que ce qu'on expectait.
Mais ils vont aller beaucoup plus vite que ce qu'on pensait.
Ouais, je suis d'accord.
Potentiellement. Ime Udoka a cette façon de responsabiliser ses joueurs que je trouve absolument fascinante. Quand tu vois le début de saison, son rapport avec les joueurs, notamment quand tu voyais Jalen Green faire des erreurs, la façon qu'il a de réagir et tout ça, tu sens qu'il leur laisse rien passer, qu'il est dur, il est exigeant, mais en même temps, il coach. Il apprend, il leur laisse faire, il laisse faire des erreurs et ainsi de suite. Il y a un moment dans la saison, là, où Jalen Green était dans... Tu vois, la progression de Jalen Green, c'est pareil. Une progression d'un joueur comme ça, c'est jamais constant. C'est pas tu pars d'en bas et tu vas tranquillement mais sûrement vers la flèche avec une flèche en haut. Non, tu montes, tu redescends. Et un bon coach, c'est aussi un coach qui est capable de t'accompagner à ce moment-là. Et Jalen Green a expliqué que pendant la saison, là, il y a un moment, il a eu un creux en termes d'adresse. Là, il plantait pas de tir, il y a rien qui rentrait. Qu'est-ce que lui a dit le coaching staff ? Tu vas en profiter pour bosser. Enfin, tu n'arrives pas à être efficace offensivement alors que tu es un joueur offensif. Trouve le moyen d'être efficace d'une autre manière. Et il a bossé sur sa défense. Et ils lui ont montré comment faire. Voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois te placer comme ci, tu dois te placer comme ça. Tes collègues, tes coéquipiers, ils font ci, ils font ça. Toi, tu dois te placer ainsi, tu dois te placer comme ça. Et ça marche.
Oui, ça marche.
Et aujourd'hui, maintenant que l'attaque revient, eh ben ça fait un tout. C'est-à-dire que défensivement, il est crédible. Offensivement, il est génial. Et cette équipe est sur un hit-check absolument effarant, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial.
Ouais, et puis moi, il y a un truc aussi dont j'ai très hâte, c'est de voir la deuxième année d'Ime Udoka. Parce que Ime Udoka, j'ai vraiment une très haute opinion de ce mec-là en termes de coaching, mais ce mec-là n'a encore jamais fait deux saisons en tant que coach principal, parce que à Boston, l'affaire lui a coûté sa place au tout début de la deuxième saison. Je me dis, non, elle avait même pas commencé la deuxième saison, c'était avant le début de la deuxième saison. Donc,
et forcément... c'est lui qui a tourné les choses à Boston.
Bien sûr.
Il faut pas l'oublier, ça.
Et souvent, on sait très bien que pour un coach qui a un effectif jeune, alors attention, l'effectif de Houston n'est pas si jeune en réalité, parce que on l'a dit, il y a des mecs comme Van Fleet, Jeff Green, Dillon Brooks qui remontent la moyenne d'âge, mais quand même, il y a un noyau de jeunes dont ça va être hyper intéressant de voir la progression sous la coupe de Ime Udoka, c'est clair.
Dillon Brooks, tout le monde était là à se moquer de la signature de Dillon Brooks cet été. Moi, personnellement, j'avais dit, un défenseur de cette trempe-là, c'est toujours utile. Et pour le coup, tu vois, autant on peut... très différent que Draymond Green, mais on peut... Ouais. On peut regretter son attitude ou sa façon d'aller toujours chercher, d'être toujours dans le conflit sur le terrain et tout ça. Je suis désolé, c'est un joueur qui, pour l'instant, partout où il a été, apporte quelque chose donne un supplément d'âme à l'équipe avec lesquelles il joue, quoi.
Oui, mais c'est vrai que moi, au moment de la signature, j'avais un peu peur, effectivement, qu'il s'éparpille. On se rappelle de sa fin de saison dernière. Mais t'as raison, la comparaison avec Draymond Green, elle fait sens, dans le sens où, tu vois, quand on évoquait tout à l'heure un éventuel trade de Draymond Green cet été et qu'on disait, mais qui va vouloir de Draymond? Mais en tout cas, je sais pas qui va en vouloir. Mais Draymond, il a besoin d'un coach comme Ime Udoka. Si un jour il quitte Steve Kerr, il a besoin de ce profil-là de coach, tu vois.
En tout cas, les Rockets, j'aurais jamais cru ça. Voilà, j'ai eu totalement tort sur cette équipe, sur cette franchise. J'avais perçu les signes en début de saison. Je t'avais dit que ça m'intrigue vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et là, quand tu vois le résultat, c'est... Et ils sont en train de nous offrir une fin de saison géniale.
Ouais,
génial.
Et vraiment, j'espère qu'ils vont aller. Alors, je dis pas que j'espère qu'ils vont passer devant les Warriors, mais j'espère qu'ils vont nous offrir une lutte jusqu'au bout.
Alors là, je vais te dire, peu importe s'ils passent. Enfin, j'ai aucune pitié personnellement. J'ai envie de te dire que s'ils passent devant les Warriors,
non mais voilà, moi
ainsi soit-il, quoi.
Ça me dérange pas que tu vois que le meilleur aille au play-in. Mais tu vois, j'espère juste que cette espèce de vent qu'ils ont là, tu vois, cette période va pas s'achever, quoi. Je veux que le suspense dure sur les 10 derniers matchs.
Draymond Green qui il y a quelques jours disait ouais j'en ai rien à péter des Rockets, ça m'inquiète pas tout ça,
Ouais.
Ils vont te faire avaler ton chapeau, mon garçon. On va terminer ce podcast en parlant des Knicks. Je voulais pas parler de façon trop approfondie des Knicks parce que comme on l'a déjà dit, c'est une équipe qui est pas facile à juger parce qu'il y a tellement de blessures tout le temps que on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, on ne sait pas trop comment analyser cette équipe, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler quand les playoffs vont commencer. Mais justement, Julius Randle est absent depuis un bon moment, Mitchell Robinson a été absent très longtemps, il vient à peine de revenir, OG Anunoby fait des allers-retours à l'infirmerie, il revient, mais finalement sa blessure, c'est au coude, je crois.
Oui.
Finalement, il faut qu'il retourne à l'infirmerie, ça le fait pas. Et cependant, ils sont troisième de la conférence Est, les Knicks. Ils arrêtent pas. T'as Miles McBride, là, qui est en train de taper des scores pas possibles. Dante DiVincenzo, t'as l'impression qu'il est né pour être un joueur des Knicks. Jalen Brunson, idem. Josh Hart, que tu adores. Je pense que Tom Thibodeau aurait dû créer un joueur dans un laboratoire. On lui aurait dit, vas-y, tu peux créer n'importe quel joueur, Tom. Et je pense qu'il aurait créé Josh Hart.
C'est clair.
Clairement. Cette équipe, je trouve ça cool. Et j'espère vraiment, je sais pas trop quoi attendre des Knicks parce que quoi qu'il arrive, même si cette équipe commence les playoffs avec un effectif au complet, ce qui a pas l'air simple, c'est dur d'espérer quoi que ce soit parce que le trio Anunoby, Randle, Mitchell n'a jamais joué une seconde ensemble sur un terrain de basket pour l'instant. Donc c'est compliqué d'espérer de voir ce club qui va devoir trouver des automatismes à la volée comme ça. Mais très franchement, on l'a déjà dit cette saison et je veux le dire encore et encore, les Knicks sont de retour, ont une identité. Et je pense que c'est le plus important de ce qu'il y a à retenir concernant cette équipe. Cette équipe a une identité. Brunson, Thibodeau, toute cette équipe fait sens aujourd'hui. Et c'est un kiff de les regarder jouer les Knicks. T'es jamais déçu en fait.
Jamais.
Tu peux jamais regarder les Knicks et te dire « Ah, ils n'ont pas donné 100% de ce qu'ils avaient dans leur trip ». Pour essayer de remporter ce match, quoi.
Ouais, et puis ils ont des ressources qui sont dingues, parce que tu l'as dit. Avant le All-Star Break, ils étaient vraiment dans le dur, notamment à cause des blessures. Depuis le All-Star Break, ils sont sur 11 victoires, 6 défaites. Sur les 10 derniers matchs, c'est même 8 victoires pour 2 défaites face à Philadelphie et Denver. Et ouais, c'est fou, les ressources qu'ils trouvent, c'est dingue. Alors effectivement, c'est difficile de se projeter parce que, si ça se trouve, ils vont tous être de retour. Hein. Robinson, c'est déjà fait, mais Anunoby et Randle vont peut-être être de retour. Mais en même temps, est-ce que t'as vraiment envie de prendre des risques? C'est compliqué, il reste 10 matchs de saison régulière, pour prendre du rythme, ça va être compliqué. Évidemment, ce serait bien qu'ils puissent disputer quelques matchs de régulière avant de revenir pour les playoffs, mais ça risque d'être complexe. Mais ouais, non, cette équipe, elle est géniale. Et moi, Josh Hart, Tu sais à quel point je l'adore et je suis tellement content parce que cette saison, enfin, on parle de lui. Ce mec-là, à mes yeux, c'est jusqu'à cette année, c'était le mec le plus sous-coté de la ligue. Il y avait un tel écart entre son impact, sa valeur pour son équipe et la manière avec laquelle le grand public le percevait que pour moi, c'était difficile. C'est, à mes yeux, c'est un role player dont toute équipe ambitieuse a besoin. Alors, ok, il a des difficultés dans l'adresse longue distance. Oui, offensivement, il est parfois un peu en difficulté, mais qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'énergie, au rebond? Il est absolument parfait dans cette équipe. Il incarne les valeurs de ces Knicks-là. Et tu l'as dit, c'est le joueur qui correspond le plus à Tom Thibodeau, que ce soit par ses qualités athlétiques ou par sa mentalité que j'ai pu voir. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais depuis le All-Star Break, Josh Hart, c'est 12,5 points par match, 6 passes décisives et 11,5 rebonds par match.
C'est fou.
Je vous rappelle quand même qu'on parle d'un mec qui fait, selon les sources, entre 1m93 et 1m96. Plus de 11 rebonds par match, c'est délirant. Il a une capacité d'anticipation qui est hors norme, toujours bien placé au rebond. Il se bat comme un chien. C'est ça qui lui permet de compenser son manque de taille. Enfin. Ouais, moi j'adore JJ Redick en a parlé récemment. C'est un mec qui est hors norme en fait. Il est tellement important pour cette équipe. Il incarne tellement l'identité et la culture de cette équipe. C'est génial. J'adore ce type et je suis très très content de le voir s'épanouir comme ça à New York.
Il y a 10 jours, ils ont joué contre les Warriors, justement. Et c'est là où j'ai pensé à toi et j'ai pensé à cette équipe. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Josh Hart a joué 48 minutes. Il a joué l'intégralité du match. Miles McBride a joué 47 minutes. Josh Hart, il fait un triple-double. Il fait 10 points, 11 passes, 11 rebonds. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement Tom Thibodeau compatible. Et le gars, il était trop content, tu vois. Il joue l'intégralité du match. Il est trop bien. Il est là, ouais, trop bien, c'est cool.
Mais bien sûr, il est trop content.
Et je trouve ça absolument génial. Max McBride, c'est pareil, c'est un joueur, mais c'est le genre d'histoire que j'adore. Second tour en 2021 de l'université de West Virginia. Et tout d'un coup, bah, il a des minutes parce que y a des trous dans l'effectif dans tous les sens. Et il répond présent. Il est absolument incroyable. Il a fait son meilleur total en carrière avec 29 points face aux Warriors, justement. Dont Teddy DiVincenzo qui a joué pour les Bucks, qui a joué pour les Warriors l'an dernier, et tout d'un coup c'est devenu le joueur. En fait, je pense que Dante DiVincenzo c'est le joueur que les fans des Knicks espéraient avoir en Evan Fournier, et Dante DiVincenzo a concrétisé leur rêve, tu vois. Clairement.
Ouais,
Et c'est
mais je pense que Dante DiVincenzo aujourd'hui, c'est le joueur que beaucoup espéraient qu'il serait au moment de sa draft, tu
aussi,
vois.
aussi, ouais. Et la camaraderie dans cette équipe, c'est, je sais pas, c'est.
Ah, c'est incarné par le trio de Villanova en plus. Non, mais
Ouais.
il y a trop d'histoires cool dans cette équipe, hein.
Ouais.
Il y a trop d'histoires. Et vraiment, en plus, ils ont tous une. Enfin, tu sens qu'il y a une mentalité dans ce groupe, une éthique de
Mais
travail.
tellement.
Tu vois, pour finir sur Josh Hart, parce que je pourrais parler de ce mec pendant
Vas-y,
trois
vas-y.
jours, mais Redick a expliqué qu'il allait bosser le tir extérieur avec lui l'été prochain. Et moi, j'ai trop hâte de voir ça, parce que quand on connaît l'éthique de travail du bonhomme, ça va être hallucinant. Et
Là, il
s'il
est à
continue.
30% là cette saison.
Ouais, mais non, mais tu te rends compte que là, le mec, il progresse à la création, s'il commence à mettre dedans à trois points, qu'il continue son boulot au rebond et en défense, mais en fait, le contrat qu'il a signé avec les Knicks, mais c'est du pain béni, quoi.
Je veux qu'on croise tous les doigts pour que cette équipe, peu importe de quelle manière, comment, pourquoi, je veux juste que les fans des Knicks et nous en tant que fans NBA, on ait la chance de voir cette équipe faire les playoffs au complet. J'aimerais beaucoup, beaucoup que ça arrive.
Oui.
Parce que je pense vraiment que même sans répétition générale de leur côté, même sans automatisme, tout ça, je pense que cette équipe peut vraiment être fun pendant ces playoffs.
Et je pense que le premier tour du playoff à l'Est, les confrontations 4-5 et 3-6, ça peut nous faire des séries hallucinantes. Parce que en l'état, les confrontations, c'est Cavs Magic et Knicks Pacers.
Nick Spacers, en
Ah
plus,
là là là
t'as
là.
l'histoire qui joue pour nous,
Ah ouais, c'est
quoi.
incroyable, c'est trop bien.
Oh la vache. Ah, mais grave.
Ah non mais ces playoffs, ils vont être fous, hein. Ils vont être fous.
Dernière question, tiens, vite fait, je voulais avoir ton avis avant qu'on clôture tout ça. entre les Wolves, non, ouais, entre les Wolves, les Pelicans, les Rockets, le Magic, quelle équipe selon toi, et le Thunder aussi, parce que bah, le Thunder ils sont déjà arrivés quelque part, mais on est là avec une batterie de jeunes équipes qui sont en pleine montée en puissance. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est le plus gros plaisir que j'ai eu toute la saison, c'est de suivre ces équipes-là, en fait. Notamment le Magic, les Rockets avec Sengun et là maintenant sur cette série de victoires. Bah, le Thunder, bien évidemment. Mais le Thunder, ça fait quelques temps que ça dure. Et là, c'est vraiment la concrétisation. Les Wolves, je trouve qu'on est, on est face à des jeunes équipes de fou, quoi.
Ouais, il y a un renouvellement là qui est impressionnant et qui est incroyable.
Voilà, rien à voir avec les Knicks. Let's go, Knicks. Merci, Charlie, de m'avoir accompagné.
Bah écoute, c'était avec plaisir, comme toujours.
Ouais, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ont un week-end de Pâques devant eux, bah, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Profitez-en pour vous reposer, tout ça. Effectivement, comme le disait Charlie tout à l'heure, les playoffs arrivent à grands pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Voilà, donc enjoy le week-end et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.